clé par William Penn, introduction observant la puissance dominante du préjugé et la facilité avec laquelle les hommes se laissent imposer, surtout du côté de l'absence de charité, nous avons d'autant moins été étonnés du traitement que nous, en tant que peuple, avons subi. Les crédules ont été excités à nous considérer comme des hérétiques, tandis que Dieu soit béni, notre but et notre inclination ont été la puissance même et l'œuvre de la religion sur nos âmes, afin que nous soyons l'ouvrage de Dieu par Jésus-Christ, son Fils béni, tenant cela pour la vie même et l'âme de la vraie religion, l'effet et le fruit de la nature divine, qui fait de nous des chrétiens véritablement ici-bas et nous prépare à la gloire dans l'au-delà. Et parce que nous avons choisi le retrait, la modération, le renoncement à soi, à l'esprit et la substance de la religion, et que par conséquent, nous nous sommes séparés de communions plus extérieures, nous avons été présentés au monde de manière déloyale. C'est pourquoi j'ai publié ce petit traité, autant pour le bien des autres que pour notre propre défense, mais surtout pour ceux qui sont sous l'empire des préjugés. L'objet de cette petite clé sera d'expliquer ce qui est obscur, et d'ouvrir ainsi la voie à une compréhension si claire et si simple de nos véritables principes, que nous espérons, avec la bénédiction de Dieu, que tous les chercheurs impartiaux seront convaincus du caractère saint et chrétien de notre profession. C'est ce que nous désirons aussi ardemment pour leur bien, puisque Dieu nous a appelés, par sa grâce, à être un peuple pour sa louange, que nul ne soit offensé par la vérité dont nous rendons témoignage, mais qu'en voyant son excellence, il y marche, et obtienne la véritable fin de la religion, le salut de l'âme. Le texte entre crochets a été inséré par l'éditeur du site Section I de la Lumière intérieure, ce qu'elle est, et sa vertu et son utilité pour l'homme des naturations. Les Quakers soutiennent que la lumière naturelle dans la conscience de chaque homme suffit à sauver tous ceux qui la suivent, et qu'ainsi il renverse le salut par Christ. Une erreur énorme, en effet, si c'était vrai. Principe, mais c'est, au mieux, une grande méprise, car leur croyance et leur affirmation sont que Christ, qui est la parole qui était avec Dieu et qui était Dieu, et l'est ainsi pour toujours, a éclairé tout homme de sa propre lumière, en tant qu'il est la vraie lumière. Ceux qui suivent les directions de cette lumière, par laquelle il éclaire l'intelligence et la conscience des hommes, ne marcheront pas dans les ténèbres, c'est-à-dire dans le mal et dans l'ignorance de Dieu, mais ils auront la lumière de la vie, c'est-à-dire qu'ils seront dans un état ou une condition sainte et vivante envers Dieu, un état d'acceptation et de salut, qui les délivre du péché ici-bas comme de la colère dans l'au-delà, pourquoi Christ a été donné par Dieu. Ainsi, ils affirment que la lumière de Christ est suffisante pour sauver, c'est-à-dire pour convaincre de péché, en faire sortir, et vivifier l'âme dans les voies de la sainteté, et non une lumière naturelle. Cette lumière est autre chose que le simple entendement que l'homme possède en tant que créature raisonnable, puisque, comme telle, l'homme ne peut être une lumière pour lui-même, mais n'a que la capacité de voir au moyen de la lumière dont Christ la parole l'éclaire. Comme le soleil, dans le firmament, est la lumière de nos corps, ainsi la lumière de la parole divine est le soleil de nos âmes, et ceux qui y marchent seront conduits par elle à la béatitude. Dénaturation 2. Les Quakers soutiennent que la lumière en eux est Dieu, Christ et le Saint-Esprit, de sorte que chaque Quaker a en lui Dieu tout entier, Christ et le Saint-Esprit, ce qui est une grossière blasphème. Principe, c'est encore une méprise quant à leur croyance. Ils n'ont jamais dit que toute illumination divine, ou manifestation de Christ dans le cœur des hommes, fut Dieu tout entier, ou Christ tout entier, ou l'Esprit tout entier, ce qui pourrait les rendre coupables de cette absurdité grossière et blasphématoire que certains voudraient leur imputer, mais que Dieu qui est lumière, ou la parole Christ qui est lumière, appelé le second Adam, le Seigneur venu du ciel, et l'Esprit vivifiant qui est Dieu sur toutes choses, béni éternellement, a éclairé l'humanité d'une mesure de lumière salvatrice, lui qui a dit. Ainsi, l'illumination vient de Dieu, ou de Christ la parole divine, mais il ne s'ensuit pas que Dieu tout entier ou Christ tout entier soit en chaque homme, pas plus que le soleil tout entier ou l'air tout entier ne se trouve dans chaque maison ou chambre. Dénaturation 3. Selon la doctrine des Quakers, tout homme doit être sauvé, car tout homme, disent-ils, est éclairé d'une manière salvatrice. Principe, il n'en est rien. Car bien que la lumière ou la grâce de Dieu ait paru et paraisse plus ou moins à tous les hommes, et apporte le salut à tous ceux qu'elle instruit à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre avec sobriété, justice et piété dans le siècle présent, il ne s'ensuit nullement que les hommes doivent obéir. Dieu offre à tous une lumière ou une grâce salvatrice, et par elle appelle tous, et lutte et plaide avec tous, selon la mesure et la manifestation de cette lumière, mais s'ils ne veulent pas écouter, il est dégagé de leur sang. Sa lumière est une lumière de salut, qui les éclaire, mais on ne peut pas dire qu'elle les sauve tant qu'ils se révoltent contre elle. Bref, bien que les hommes soient éclairés ou visités par une lumière ou une grâce salvatrice, les Quakers n'ont jamais conclu, et l'on ne peut pas conclure correctement de leur témoignage, que ces hommes doivent nécessairement être sauvés, qu'ils obéissent à cette lumière ou qu'ils s'y rebellent. Dénaturation 4. par la lumière ou l'esprit des Quakers, ils peuvent être poussés à toute méchanceté, puisqu'ils disent que ceux qui sont ainsi conduits ont la lumière en eux. Principe, cela n'a jamais été leur doctrine, et ce n'en est pas la conséquence. Car bien qu'ils soutiennent que tous ont la lumière, ils n'ont jamais dit que tous lui obéissaient, ni que les hommes mauvais, en tant que tels, et dans de telles choses, étaient conduits par elle. À plus forte raison, la lumière ne saurait être tenue pour responsable des péchés de ceux qui refusent d'être conduits par elle. Car en cela, ils distinguent l'Esprit de Dieu et ses mouvements de l'Esprit de ce monde et de ses fruits. L'Esprit de Dieu condamne toute impiété et pousse et incline à la pureté, à la miséricorde et à la justice qui viennent de Dieu. L'Esprit de Dieu rend les hommes libres du péché et conduit tous ceux qui prennent en compte ses convictions et ses mouvements à une conscience du péché et à une douleur pour le péché, et ainsi à un état de réforme, sans lequel toute profession de religion n'est qu'une simple formalité. Le péché et la perdition de l'homme viennent de lui-même, mais son secours est en Dieu seul, par Jésus-Christ, notre bienheureux sacrifice et sanctificateur. Section I de l'infaillibilité et de la perfection des naturations 5, les Quakers doivent être infaillibles et parfaits s'ils ont en eux une telle lumière infaillible. Principe, c'est encore une grande déformation de leur véritable pensée. Ils disent que le principe est pur, parfait, infaillible en lui-même, sinon il serait très impropre à conduire les hommes hors de l'erreur et de l'impureté. Mais ils n'ont jamais affirmé être eux-mêmes parfaits, simplement parce que la lumière était en eux. Ils disent plutôt que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et vivent selon ses manifestations sont, dans cette mesure, parfaits et dans cette mesure, infaillibles dans la bonne voie, autant qu'ils sont conduits par lui, et pas davantage. Car ce n'est pas l'opinion, ni la spéculation, ni des notions sur ce qui est vrai, ni l'assentiment à des propositions, même formulées de la manière la plus exacte, qui font d'un homme un vrai croyant. C'est la conformité de l'esprit et de la conduite aux prescriptions de ce principe divin de lumière et de vie dans l'âme qui marque une personne comme enfant de Dieu. Car les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, mais si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Qu'on note que, bien que cet esprit soit en l'homme, il ne vient pas de l'homme, mais de Dieu par Jésus-Christ. Tous ont la lumière en eux, tous ont reçu l'Esprit de Dieu répandu sur eux depuis la Pentecôte. Mais même avec cette influence de Dieu, l'homme marche dans ses voies mauvaises, selon sa propre pensée et son propre cœur, qui est plein de mal. La promesse de Dieu est que si nous demeurons dans sa parole, dans le silence, en attendant Dieu pour entendre et voir ses enseignements, il nous montrera le mal de nos cœurs, puis il en ôtera. Alors nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Alors nous marchons dans la lumière, où le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Section I des Écritures, de leur vérité, de leur autorité et de leur utilité des naturations 6, les Quakers nient l'Écriture, car ils nient qu'elle soit la parole de Dieu. Principe, ils reconnaissent et qualifient les Écritures comme elles se reconnaissent et se qualifient elles-mêmes, une déclaration des choses très fermement crues, produite dans les siècles passés par l'inspiration du Saint-Esprit. Par conséquent, les Écritures sont utiles pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement équipé pour toute bonne œuvre. Nous y croyons, et nous les lisons, et nous disons que c'est l'œuvre que nous avons à faire dans ce monde, et le désir ardent de nos âmes envers le Dieu Tout-Puissant, que nous puissions en ressentir et en attester l'accomplissement en nous et sur nous, afin que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Mais les appeler la parole de Dieu, ce qu'elles ne se nomment jamais elles-mêmes, et par quoi elles désignent particulièrement et nomment Christ, sans aucune légère envers elles, que nous croyons d'autorité divine, et qui embrasse le meilleur des livres, et que nous reconnaissons être autant la parole de Dieu qu'un livre peut l'être, il l'attribue par devoir et par raison à Christ seul. Toutefois, puisque la parole de Dieu peut, en un certain sens, signifier le commandement de Dieu, se rapportant à la chose ou à la matière commandée comme étant la pensée de Dieu, elle peut être appelée la parole du Seigneur, ou la parole de Dieu, comme, en certaines occasions particulières, les prophètes sur la parole du Seigneur pour des personnes et des lieux, c'est-à-dire la pensée ou la volonté de Dieu, ou ce que le Seigneur leur ordonna de déclarer ou de faire. C'est en ce sens que Christ l'emploie lorsqu'il dit aux pharisiens qu'ils avaient rendu sans effet la parole ou le commandement de Dieu par leur tradition. Mais parce que les gens sont enclins à penser que s'ils possèdent les Écritures, ils possèdent tout, car ils les tiennent pour la parole de Dieu, et ne regardent pas plus loin, c'est-à-dire vers aucune autre parole d'où proviennent ces bonnes paroles, ce peuple a donc été contraint, et il croit par le bon Esprit de Dieu de les renvoyer encore vers la grande parole, Jésus-Christ en qui est la vie, et cette vie est la lumière des hommes, afin qu'ils ressentent quelque chose de plus proche que les Écritures, la parole dans le cœur, d'où toutes les saintes écrites. Et assurément, il est le seul véritable interprète, autant que l'auteur, de la Sainte Écriture. Sans sa lumière, son esprit ou sa grâce, elle ne peut être lue pour le salut par ceux qui la lisent. Dénaturation 7, il nie que ce soit un moyen de résister à la tentation. Principe, c'est une accusation très peu charitable. Il est vrai qu'il nie que les Écritures, par elles-mêmes, suffisent à résister aux tentations, car alors tous ceux qui les possèdent et les lisent seraient assurés d'être préservés par elles contre les tentations. Mais prétendre qu'il nie qu'elles soient un moyen ou un instrument dans la main de Dieu, c'est soit une grande ignorance, soit une injustice de la part de leurs adversaires. Dieu s'est servi des Écritures, et chaque jour s'en sert et s'en servira pour instruire, reprendre, consoler et édifier par l'Esprit ceux qui les lisent comme ils doivent le faire. Les premiers Quakers niaient que le simple fait de retenir le péché suffise aux yeux de Dieu. Ils enseignaient plutôt que chacun doit l'attendre en silence pour qu'il lui montre les péchés secrets de son cœur, ressentir une douleur selon Dieu pour son état, puis faire l'expérience de la puissance de Dieu autant de son cœur l'inclination au péché. Tant qu'un tel retrait par la puissance de Dieu n'a pas eu lieu, le péché demeure une attraction constante dans la vie d'une personne. Section IV du Saint-Esprit de Dieu et de sa fonction à l'égard de l'homme et du ministère dénaturation 8. Les Quakers affirment que l'Esprit de Dieu est le maître immédiat et qu'il n'existe plus aucun autre moyen utile, comme le ministère, les ordonnances, etc. Cette accusation vient de ce que les premiers Quakers citaient l'avertissement de Jean contre le fait d'être trompé par des hommes. « Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous séduisent. Mais l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez besoin que personne vous enseigne, mais comme la même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est la vérité et qu'elle n'est point un mensonge, et comme elle vous a enseigné, demeurez en lui. » 1 Jean 2, 26-27 « Si un homme parle à partir de l'onction, l'Esprit de Dieu, cet homme est un enseignant qualifié et véritable. Si un homme parle à partir de son esprit charnel, non à partir de paroles fournies par l'Esprit de Dieu, cet homme est un enseignant non qualifié, non perfectionné, sans autorité, non envoyé, aveugle. Principe, ils n'ont jamais tenu un tel langage, et leur pratique quotidienne réfute cette insinuation. Ils n'ont jamais nié l'usage des moyens employés dans la vie et la puissance de Dieu, et non issus de la volonté de l'homme et de ses innovations. Ils ne peuvent reconnaître comme ministère évangélique un ministère dépourvu de l'esprit de l'Évangile, ni admettre que de tels hommes puissent être envoyés de Dieu s'ils ne sont pas enseignés de Dieu, ni qu'ils soient aptes à enseigner aux autres ce qu'est la régénération et le chemin du ciel, eux qui ne sont jamais nés de nouveau, ni que de tels hommes puissent amener des âmes à Dieu, eux qui sont étrangers au baptême de feu et du Saint-Esprit. Ce ministère sans expérience et sans vie est le seul ministère que le peuple appelé Quakers ne peut reconnaître ni recevoir, et qu'il ne peut donc soutenir. Quant aux ministères et aux ministres conformes aux Écritures, ils les reconnaissent, les respectent et s'en réjouissent, et sont prêts à aider et à soutenir leur service envers Dieu. Ils rejettent toutes les méthodes fausses. Les méthodes et l'ordre évangélique, ils aiment à les conserver, car ils se rassemblent avec diligence pour attendre Dieu, afin qu'il les rende capables de l'adorer. Là, ils prient et prophétisent, l'un après l'autre, selon qu'ils sont préparés et mus dans leur cœur par son esprit, et selon que quelque chose leur est révélé. Autrement, ils demeurent silencieux devant le Seigneur. Ils ne sont pas non plus sans cantiques spirituels, faisant mélodie dans leur cœur et de la voix à Dieu leur Rédempteur, par le même Saint-Esprit, aussi souvent qu'ils en sont consolés et émus, comme c'était la pratique primitive. Section V des Trois Saints, ou de la Trinité selon l'Écriture dénaturation 9, les Quakers nient la Trinité. Principe, rien n'est plus faux. Ils croient aux Trois Saints, ou à la Trinité du Père, de la Parole et de l'Esprit, selon l'Écriture. Et ils croient que ces choses sont véritablement et proprement une seule substance spirituelle, d'une même nature aussi bien que d'une même volonté. Mais ils sont réservés quant à abandonner les termes et expressions de l'Écriture pour ceux des scolastiques, tels que « personne » ou « subsistance » distinctes et séparées, d'où les gens sont enclins à se former des idées grossières et des notions du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils estiment qu'une curiosité trop poussée à l'égard de ces hautes révélations divines, ou des sujets spéculatifs, fussent-ils de très grandes vérités en eux-mêmes, contribuent peu à la piété et encore moins à la paix, qui devrait être le principal but des vrais chrétiens. C'est pourquoi ils ne peuvent satisfaire cette curiosité, ni en eux-mêmes ni chez les autres. Les vérités spéculatives doivent, selon eux, être exposées avec parcimonie et délicatesse, et ne jamais être faites la mesure et la condition de la communion chrétienne. Les hommes sont trop enclins à laisser leur tête devancer leur cœur, leurs notions dépasser leur obéissance et leur passion soutenir leur chimère, au lieu d'une croix quotidienne, d'une vigilance constante et d'une pratique sainte. Peine nier que le mot « Trinité » apparaisse ou que ce soit dans la Bible. Peine nier qu'il y eut trois personnes distinctes ou trois substances distinctes, ils prêchaient plutôt que le Père, la Parole et l'Esprit sont un seul Esprit, comme l'Écriture l'affirme. La Trinité est clairement une invention de la première secte romaine, voire la note à 1 Jean 5-7, invention dont les conséquences sont plutôt secondaires, née de la tentative de l'homme de comprendre et de définir la relation entre le Père, Jésus-Christ et le Saint-Esprit, relation qui ne peut être comprise que par révélation de Jésus-Christ. L'affirmation que la Trinité est composée de trois personnes conduit les gens à penser que le Père et Jésus sont une personne comme eux-mêmes. Pourtant, considérez ces Écritures, Christ remplit toute la terre et les cieux. Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en vous tous. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui toutes choses ont été faites et par qui et en qui nous existons. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus, lui-même ayant été homme. 1 Tim 2:5 Ils sont radicalement autres qu'une personne comme toi ou moi. Section V. La divinité du Christ. Dénaturation 10. Les Quakers nient que Christ soit Dieu. Principe. C'est une censure très fausse et déraisonnable, car leur grand principe caractéristique est celui-ci, que Christ, en tant que parole divine, éclaire les âmes de tous les hommes venant au monde d'une lumière spirituelle et salvatrice, ce que nul autre que le Créateur des âmes ne peut faire. Cela montre suffisamment qu'ils le croient Dieu, car ils le reconnaissent véritablement et expressément comme tel, selon l'Écriture, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et il est sur toute chose Dieu béni éternellement. Ainsi que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1:1 Elle était au commencement avec Dieu. Jean 1:2 La parole, qui demeurait avec Dieu au commencement, est sortie pour devenir Jésus, le premier-né dans la dimension de la nouvelle création. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en vous tous. F4:5-6 Pourtant pour nous, il y a un seul Dieu le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous existons, et un seul Seigneur Jésus-Christ par qui toutes choses sont faites et par qui nous existons. 1 Cor 8:6 Jésus lui dit alors, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va vers mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, et vers mon Dieu et votre Dieu. » Jean 20:17 Car il y a un seul Dieu, et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Christ Jésus, lui-même ayant été homme. 1 Tim 2:5 Pourtant il Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression de son être, Hébreux 3, et il est essentiellement avec Dieu et sous la forme de Dieu, Phil 2:6, de sorte que tous les hommes doivent honorer le Fils comme il honore le Père, Jean 5:21-23. Si le Père veut que nous honorions Jésus de la même manière que nous l'honorons lui, pour nous Jésus, qui est notre seul Seigneur, est clairement égal à Dieu. Section Vie de l'humanité du Christ. Dénaturation 11. Les Quakers nient la nature humaine du Christ. Principe. Nous n'avons jamais enseigné, dit ni soutenu une chose aussi grossière, si par une nature humaine, on entend se référer à l'humanité de Jésus-Christ. Car de même que nous croyons qu'il est Dieu sur toute chose, béni éternellement, nous croyons aussi véritablement qu'il est vraiment et proprement homme, semblable à nous en toutes choses, et jadis soumis à toutes choses pour nous, le péché excepté. Les protestants pensent que si vous croyez que l'homme, Jésus-Christ, qui a marché sur la terre, était le Fils de Dieu, alors vous êtes croyant. Les premiers Quakers disaient que la foi en l'exactitude historique de la Bible ne suffisait pas, que la foi c'est entendre la parole de Dieu, laquelle parole est dans votre cœur et dans votre bouche afin d'être obéi. Par l'obéissance aux paroles que Christ, la parole, vous adresse, la lumière du Christ se lèvera dans votre cœur. Cette lumière, vous devez lui obéir totalement pour recevoir le salut, c'est-à-dire devenir libre même du désir de péché. Ainsi, les protestants diraient, les Quakers ne croient pas à la nature humaine du Christ. Pourtant, les Quakers tenaient à attribuer correctement les merveilleuses œuvres de Jésus-Christ dans la chair, lesquelles incluent. Par ses souffrances, une seule offrande, sacrifice et mort. Il a mis fin à toutes les offrandes légales, type, ombre et figure, ordonnance extérieure d'hymne, rites et cérémonies, et à de nombreux lavages baptêmes sous la loi de Moïse et le sacerdoce lévitique. Il demeure prêtre pour toujours, selon l'ordre de Melchizédek, roi de justice et roi de paix, notre souverain sacrificateur sur la maison et la famille de Dieu. Ayant consacré, préparé et ouvert la voie nouvelle et vivante de la nouvelle alliance, à travers le voile de sa chair. D'une lettre de G. Whitehead, son sacrifice a payé pour les péchés de toute l'humanité, donnant à chacun de nous l'occasion de recevoir la puissance de sa grâce transformatrice pour nous purifier et nous rendre parfaits pour toujours, pour nous affranchir de la captivité et de l'esclavage du péché. Avant Christ, la perfection n'était pas permanente, comme David a perdu sa perfection et a dû la retrouver. Mais tant que tout péché n'est pas ôté de votre cœur, tant que vous n'êtes pas purifié, vous ne pouvez pas être en la compagnie de Dieu, car quelle communion la justice a-t-elle avec l'injustice ? Et quelle communion la lumière a-t-elle avec les ténèbres, 2 Cor 6:14. Il a rendu possible que l'homme puisse vivre en union avec lui pendant qu'il est sur la terre et dans le royaume des cieux. L'union n'était pas possible avant Christ, seulement un salut et un éclaircissement temporaire. Il a affiné la piété jusqu'à aimer vos ennemis, interdisant la colère. Regardez une femme avec convoitise, c'est commettre l'adultère dans son cœur. Soyez parfait, perdez votre vie pour la sauver, tant l'autre joue, etc. Il a rendu possible que le Saint-Esprit soit répandu sur toute l'humanité, ce qui a eu lieu à la Pentecôte. Il nous a donné l'exemple terrestre de Dieu. Il a vécu une vie parfaite, montrant son obéissance aimante au commandement de Dieu, jusqu'à la mort sur la croix. Nous devons suivre ses traces, souffrir, jusqu'à la mort de nos natures égoïstes sur la croix intérieure du renoncement à soi. Il nous a montré ce qu'est la justice par son exemple. Ne dire que ce qu'il entendait le Père lui dire de dire, ne juger que selon ce que le Père lui disait, et ne faire que ce que le Père lui montrait de faire, il a dit que le Fils ne fait rien selon sa propre volonté. Il nous a montré ce que nous devons atteindre, puisque nous visons la plus grande priorité de toutes les Écritures, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Nous sommes justes quand nous faisons la volonté du Père en tout ce que nous disons et en tout ce que nous faisons, alors nous pratiquons la justice comme Jésus a pratiqué la justice. 1 Jean 3, 7. Il a vécu une vie parfaite, montrant son obéissance aimante au commandement de Dieu, jusqu'à la mort sur la croix. Nous devons suivre ses traces, souffrir, jusqu'à la mort de nos natures égoïstes sur la croix spirituelle du renoncement à soi. Et tous les héros de l'Ancien Testament n'ont pas reçu la promesse avant la venue du Christ, et avant que ses premiers disciples n'entrent dans le royaume des cieux et dans l'union. Section vie de Jésus-Christ, de sa mort et de ses souffrances dénaturation 12, les Quakers s'attendent à être justifiés et sauvés par la lumière en eux, et non par la mort et les souffrances du Christ. Principe, c'est une accusation à la fois injuste et fausse. Mais les divers sens du mot justification m'obligent ici à en distinguer l'usage, car dans le sens naturel et propre, il implique clairement de rendre juste des hommes qui étaient injustes, pieux ceux qui étaient impies, droits ceux qui étaient dépravés, comme l'apôtre s'exprime, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus, et par l'Esprit de notre Dieu. Dans l'autre usage du mot, que certains appellent un sens légal, il se rapporte à Christ comme sacrifice et propitiation pour le péché. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Et, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et il est la propitiation pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vérité grande et très fermement crue par nous. Toutefois, nul homme ne peut en avoir droit au bénéfice, sinon en venant à croire et à se repentir du mal de ses voies, alors il peut être vraiment dit que Dieu justifie même l'impie, et le considère par Christ comme s'il n'avait jamais péché, parce que ses péchés lui sont pardonnés à cause de son Fils bien-aimé. Non pas que Dieu considère comme étant en Christ des personnes qui ne sont pas en Christ, c'est-à-dire qui ne sont pas dans la foi, l'obéissance et le renoncement à soi de Christ, qui ne sont ni sanctifiées ni conduites par son Esprit, mais se rebellent et au lieu de mourir au péché par une vraie repentance, s'y livrent chaque jour, car ceux qui sont en Christ deviennent de nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. C'est pourquoi nous disons que tout ce que Christ a fait alors, tant en vivant qu'en mourant, a été d'un grand profit pour le salut de tous ceux qui ont cru et croient maintenant, et de ceux qui croiront à l'avenir en lui. Mais la manière de parvenir à cette foi, c'est de recevoir et d'obéir à la manifestation de sa lumière divine et de sa grâce dans leur conscience. Elle conduit les hommes à croire et à estimer Christ, et non à le renier ou à le sous-estimer comme sacrifice commun et médiateur. Car nous affirmons que suivre cette sainte lumière et se tourner vers elle est le seul moyen d'avoir une foi véritable et vivante en Christ tel qu'il est apparu dans la chair, et de le recevoir comme sacrifice et médiateur. Nous croyons que Christ n'est pas venu pour sauver les hommes dans leurs péchés, mais de leurs péchés, et que ceux qui ouvrent leur cœur aux convictions intérieures de sa lumière et de sa grâce ont la conscience aspergée de son sang, les détournant des œuvres mortes pour servir le Dieu vivant. Et seulement dans la mesure où les hommes viennent, par la foi, la repentance et la réforme, à appartenir à Christ, Christ est à eux, autant qu'ils obéissent à sa grâce, prennent leur croix et le suivent dans les voies de la douceur, de la sainteté et du renoncement à soi. Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, parce qu'ils ne marchent pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Nous avons vu ici un écueil que nous voulons éviter, et nous insistons pour que d'autres s'en gardent aussi. À savoir que parce que Christ est mort comme sacrifice pour les péchés du monde entier, par quoi il a mis l'humanité en capacité d'être sauvée, certains présument de ce sacrifice et continuent de pécher, ne mourant pas avec Christ au monde, mais vivant dans le péché selon l'esprit du péché qui est Satan. Ceux-là peuvent être assurés que là où Christ est allé, ils ne viendront jamais, car Dieu a envoyé son Fils pour nous bénir en détournant chacun de nous de sa mauvaise voie. Car ce n'est rien d'autre que cette parole éternelle, cette lumière, cette puissance, cette sagesse, cette justice, qui a pris chair et est apparue dans ce saint corps par qui l'ont reçu ou peuvent recevoir tout véritable bénéfice spirituel, dont la doctrine a transpercé, dont la vie a prêché, dont les miracles ont étonné, dont le sang a expié, et dont la mort, la résurrection et l'ascension ont confirmé que cette manifestation bénie n'était rien de moins que la parole Dieu manifestée en chair pour le salut du monde, et si main. Section X des bonnes œuvres dénaturation 13. Ainsi, les Quakers établissent les œuvres et le mérite par les œuvres, par quoi la justification par la foi en Christ est mise de côté principe, nullement. Mais ils disent, avec l'apôtre Jacques, que la vraie foi en Christ ne peut être sans œuvre, pas plus qu'un corps ne peut vivre sans esprit, et que là où il n'y a pas de vie, il n'y a pas de mouvement, et là où il n'y a pas de vie et de mouvement divin, il ne peut y avoir de vraie foi, la croyance étant un fruit de la vie divine. À peine la vraie foi est-elle engendrée dans une âme, qu'elle se met à agir, ce qui est à la fois sa nature et à certains égards sa fin. La foi n'est pas croire que Jésus était le Fils de Dieu, né d'une vierge, crucifié, ressuscité, etc. Selon Paul, la foi c'est entendre la parole de Dieu, laquelle parole est dans votre cœur et dans votre bouche afin d'être obéi. Rome 10, 8, 17, 2, 30, 10, 14. Ainsi, la foi est un don de Jésus, la parole de Dieu, l'auteur nécessaire de la vraie foi, qui vous parle, et si vous croyez que celui qui vous parle est le Fils de Dieu, alors vous lui obéirez, comme preuve de votre foi, donc votre obéissance, qu'il s'agisse de repentance ou d'un acte d'amour, est une œuvre attestant la foi. Nous sommes justifiés par la foi, comme le démontre notre amour obéissant à ses commandements, qu'ils ne nous sont pas pénibles. Croire à l'exactitude de la Bible n'est pas la foi dont Christ est l'auteur. La foi, c'est entendre l'Esprit et le suivre. Ainsi, la loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. Mais après que la foi est venue, nous ne sommes plus sous un pédagogue. Galates 3, 24-25 « Mais si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Galates 5, 18 « Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par le fait d'entendre et de croire ?» Galates 3, 2 « Celui qui vous accorde l'Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par la foi en ce que vous avez entendu vous être dit ?» Galates 3, 5 « Mais que dit-elle ? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur afin que tu lui obéisses, c'est-à-dire la parole de la foi que nous prêchons. » Rome 10, 8 « Ainsi donc la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu Christ au-dedans de ton cœur. » Rome 10, 17 « Mais les Écritures montrent que tous les hommes sont enfermés sous le péché, afin que la promesse par la foi de Jésus-Christ soit donnée à ceux qui croient. » Galates 3, 22 « Je voudrais seulement apprendre de vous ceci. Avez-vous reçu l'Esprit par les œuvres de la loi, ou par la foi en ce que vous avez entendu ?» Galates 3 de celui qui vous accorde l'Esprit et opère des miracles parmi vous, le fait-il par les œuvres de la loi, ou par la foi en ce que vous avez entendu? Galates 3, 5. Prenez garde de ne pas refuser celui qui parle. Car s'ils n'ont pas échappé, ceux qui ont refusé celui qui parlait sur la terre, combien plus serons-nous exposés si nous nous détournons de celui qui parle du ciel? Hébreux 12, 25. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la provocation et de la rébellion. Hébreux 3, 15 « Nous ne disons pas non plus que nos meilleures œuvres, procédant de la vraie foi elle-même, puissent mériter, non pas même la foi jointe aux œuvres, parce que la vie éternelle est le don de Dieu. Tout ce que l'homme est capable de croire ou d'accomplir ne peut jamais être dit mériter la béatitude éternelle, parce qu'il ne peut y avoir de proportion entre les meilleures œuvres de la vie de l'homme et la félicité éternelle. Ainsi tout ce que l'homme peut faire, même avec l'assistance du Saint-Esprit, ne peut jamais être dit, à proprement parler, mérité comme une dette due à la créature. Mais d'autre part, cette foi droite et les bonnes œuvres qui en naissent ou qui la suivent, peuvent et obtiennent effectivement l'immortalité bienheureuse qu'il plaît à Dieu de donner, et de privilégier de ce don les fils des hommes qui remplissent la condition nécessaire, c'est une vérité d'évangile et une vérité nécessaire. Et c'est sur cela que les Quakers s'appuient, et c'est pourquoi ils l'affirment hardiment au monde. Ainsi, nous nions tout mérite de mériter le salut et la vie éternelle aux meilleures œuvres, surtout à celles que certains estiment méritoires. Mais, de même qu'ils nient d'un côté le caractère méritoire des œuvres, de l'autre ils ne peuvent pas non plus s'associer à cette foi paresseuse qui ne met pas en œuvre le salut de l'âme. Heureux celui qui entend les paroles du Christ et les met en pratique. C'est pourquoi, au dernier jour, il ne sera pas dit « Bien professé, mais bien fait, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie du Seigneur, toi qui as vécu saintement, qui m'as aimé par-dessus tout, et ton prochain comme toi-même. » Entre car c'est pour toi et pour ceux qui te ressemblent que cela a été préparé dès la fondation du monde. Cette récompense de sa fidélité est l'amour infini de Dieu révélé et donné à l'homme par le Christ. Car si le salaire du péché, c'est la mort, le don de Dieu, lui, est la vie éternelle pour de telles personnes. Ainsi, le peuple appelé Quakers ne soutient pas que leurs bonnes œuvres les justifient, car bien que nul ne soit justifié sans être, dans une certaine mesure sanctifié, tout ce que l'homme fait est un devoir et ne peut donc effacer de vieilles dettes, car cela relève davantage de la grâce et de la faveur, sur la repentance par le Christ, le sacrifice et le médiateur. Ainsi, les hommes ne sont pas justifiés parce qu'ils sont sanctifiés, mais à cause de celui qui les sanctifie, et qui opère en eux et pour eux toutes leurs bonnes œuvres, et les présente irréprochables, à savoir le Christ Jésus, qui est devenu pour eux, comme il l'a été pour les saints d'autrefois, sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que celui qui se glorifie ne se glorifie qu'en le Seigneur. Section X du baptême, d'eau et de la Seine perversion 14, les Quakers nient les deux grands sacrements ou ordonnances de l'Évangile, le baptême et la Seine. Principe, tout ce qui est véritablement une ordonnance évangélique, ils désirent l'avouer et le pratiquer. Mais ils ne relèvent dans les Écritures aucun langage semblable à celui de l'objection. Ils reconnaissent certes que la pratique du baptême de Jean et de la Seine s'y trouve, mais la pratique seule n'est pas une institution, ni une raison suffisante pour en poursuivre la continuation. Ils croient qu'ils étaient alors appropriés, lorsque les mystères étaient encore enveloppés de figures et d'ombres. Mais ils croient qu'aucune figure ni aucun signe n'est perpétuel ni d'institution sous l'administration de l'Évangile, lorsque le Christ, qui en est la substance, est venu. Ce serait renverser toute la dispensation de l'Évangile et rendre la venue du Christ sans effet, que de faire des signes et des figures la nature de l'Évangile, qui est intérieure, spirituelle et éternelle. Si l'on dit « mais ils ont été employés après la venue du Christ, et même après son ascension », ils répondent « beaucoup de cérémonies juives l'ont été aussi ». Il leur suffit que le baptême d'eau fût celui de Jean, et non celui du Christ, que Jésus ne l'a jamais pratiqué, qu'il ne faisait pas partie de la commission de Paul, ce qui, s'il avait été évangélique et durable, y aurait certainement figuré, qu'il n'y a qu'un seul baptême, comme il n'y a qu'une seule foi et un seul Seigneur, et que le baptême doit être de même nature que le royaume dont il est une ordonnance, et ce royaume est spirituel. Il en va de même pour la Seine, toutes deux faisant allusion à d'anciennes pratiques juives, et étant utilisées comme une signification d'une œuvre proche et en voie d'accomplissement, à savoir la substance qu'elle représentait. Si quelqu'un dit « Mais le Christ a commandé que l'une d'elles se poursuive en mémoire de lui », ce que l'apôtre à l'église de Corinthe explique ainsi, qu'ainsi ils annoncent la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Astérisque, nous soutenons qu'il l'a dit, et qu'il a aussi dit à ses disciples qu'il viendrait de nouveau à eux, que quelques-uns ne goûteraient pas la mort avant de l'avoir vu venir dans le royaume, et que celui qui demeurait avec eux serait en eux, et qu'ils ne boiraient plus de ce fruit jusqu'à ce qu'ils le boivent de nouveau avec eux dans le royaume de Dieu qui est au-dedans. Il était le pain céleste qu'ils ne connaissaient pas encore, ni sa chair et son sang comme ils devaient les connaître. Ainsi, bien que le Christ soit venu pour mettre fin à tous les signes, tant qu'ils n'étaient pas connus comme le grand pain de vie venu du ciel, les signes avaient leur utilité pour le rappeler en mémoire du Christ. Paul dit expressément, à propos des observances juives, qu'elles étaient l'ombre des biens à venir, mais que la substance est en Christ. Mais il a dit, aussi souvent que vous mangez du pain et aussi souvent que vous buvez du vin, comme chaque fois que vous prenez un repas, faites ceci en mémoire de ma mort, non pas dans un rituel païen qui par magie est censé transformer le pain et le vin en chair et en sang, servir de sacrifice pour les péchés ce qui annule la mort du Christ, ou être le moyen de la communion avec le Christ, ce qui annule le fait de venir à lui, de l'entendre et de lui obéir dans le secret de votre cabinet, votre chambre intérieure, votre cœur. De là vient que l'on ne peut pas dire que les Quakers les nient, mais eux ressentant véritablement en eux-mêmes la réalité même que signifie l'eau extérieure, le pain et le vin, les abandonnent comme accomplis en Christ qui est en eux l'espérance de leur gloire. Et dès lors ils n'ont qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul pain et une seule coupe de bénédiction, et cela relève du royaume de Dieu qui est au-dedans. Section XI. De la résurrection et de la récompense éternelle perversion 15, ils ne reconnaissent aucune résurrection des morts, ni de récompense à venir. Principe, en ceci aussi, nous sommes grandement calomniés. Nous ne nions pas, mais croyons la résurrection selon l'Écriture, non seulement hors du péché, mais aussi hors de la mort et du tombeau. Toutefois, nous sommes en conscience prudents dans l'expression de la manière de la résurrection visée, parce qu'elle est laissée secrète par le Saint-Esprit dans l'Écriture, ce qui rend les Quakers satisfaits du corps que Dieu voudra bien leur donner par la suite, étant assurés que leur corruptible revêtira l'incorruptibilité et que leur mortel revêtira l'immortalité, mais d'une manière qui plaît à Dieu. Entre-temps, ils estiment que c'est leur devoir, autant que leur sagesse, de s'en remettre à sa sainte volonté. Il leur suffit de croire à une résurrection, et cela avec un corps glorieux et incorruptible, car telle était l'espérance ancienne. Quant aux récompenses éternelles, non seulement ils y croient, mais comme l'apôtre le disait jadis, ils ont les plus fortes raisons de le faire. C'est leur foi, leur espérance, leur intérêt, et ce pourquoi ils attendent, ont souffert, et qu'ils se recommandent les uns aux autres comme un encouragement à la fidélité. Les premiers Quakers croyaient en une résurrection dont la chrétienté n'avait pas la moindre idée qu'elle fût possible. Ils croyaient que tandis qu'ils étaient sur la terre, lorsqu'ils étaient crucifiés pour mourir au péché, le Seigneur lui-même ressuscitait au-dedans d'eux, formant une créature entièrement nouvelle, dont la vie était tout entière en Dieu, mais cachée au monde la première résurrection. Heureux et saint celui qui a part à la première résurrection. Sur eux la seconde mort n'a point de pouvoir, mais ils seront prêtres de Dieu et du Christ. Apoc 20:6. Section XI de l'honneur civil et du respect perversion 16, les Quakers refusent tout honneur civil et tout respect, sinon ce qui est relatif ou égal entre les hommes. Principe, nous honorons tous les hommes dans le Seigneur, mais non selon l'esprit et la mode du monde qui passe. Et bien que nous ne retirions pas nos chapeaux, ne donnions pas de titres flatteurs, et n'usons pas de compliments, parce que nous croyons qu'il n'y a pas de véritable honneur à les employer, nous traitons pourtant tous les hommes avec sérieux et douceur, quoique avec simplicité, et nos supérieurs avec une distance modeste. Et nous sommes prêts à leur rendre tout avantage ou service raisonnable, en quoi nous pensons que consiste le véritable honneur. Et quant à exprimer notre respect envers nos supérieurs, nous pensons que cela se fait au mieux en obéissant à toutes les lois justes, selon la parole du centurion au Christ, que le Christ approuva tant, des commandements raisonnables et une obéissance raisonnable. Voilà honorer le gouvernement et les gouvernants, et non des titres vides et des gestes serviles. Section XI du gouvernement civil perversion 17. Les Quakers sont ennemis de tout gouvernement, premièrement, parce que chacun agit selon sa propre fantaisie, deuxièmement, parce qu'ils ne soutiennent pas le gouvernement civil et sont donc inutiles, sinon dangereux pour lui, troisièmement, parce qu'ils refusent de témoigner sous serment. Principe, c'est une calomnie, leur vise et leur conduite le montrent suffisamment. Ils croient que la magistrature est une ordonnance de Dieu, et que celui qui gouverne bien mérite d'être apprécié et estimé, et de plus, ils sont un peuple qui aime le bon ordre et un bon gouvernement parmi eux. Il est vrai, en effet, qu'ils ne peuvent tuer ceux de leur espèce, et ne sont donc pas faits pour être des guerriers avec des armes charnelles, parce qu'ils croient que leur Seigneur bienheureux en a interdit l'usage à ses disciples, lorsqu'il a dit « Ceux qui prennent l'épée périront par l'épée ». L'usage de l'épée dans la guerre, Dieu l'a permis à cause de la dureté du cœur des hommes, il est entré avec la chute et doit en sortir aussi. Lorsque le Christ, le réparateur et le restaurateur, vient régner dans le cœur, l'amour prendra la place de la colère, et le pardon triomphera de l'offense et de la vengeance. C'est pourquoi les armes du combat de ce peuple ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses du péché. Elles prennent leur commencement en Christ, le commencement et la fin de tous les vrais chrétiens. Que l'on ne pense pas ce peuple inutile, ou incompatible avec le gouvernement, pour avoir introduit cette voie inoffensive dans le monde troublé, car quelqu'un doit la commencer, mais qu'on embrasse plutôt le principe et qu'on suive l'exemple, croyant avec eux que le Christ, le bienheureux berger de son troupeau, préservera les fidèles disciples de sa doctrine pacifique et miséricordieuse. Ils désirent pouvoir rendre témoignage, mais ils ne peuvent en aucune manière jurer, le Christ ayant commandé à ses disciples que leur oui et leur non suffisent, parce que ce qu'on y ajoute vient du mal. Ainsi, c'est pour l'amour du Christ qu'ils ne peuvent jurer, lui qui est la vérité et qui leur a appris à dire la vérité sans serment. Post-scriptum, écoutez, et laissez-vous supplier pour le salut de votre âme, oh si vous connaissiez Dieu, votre Créateur, comme étant aussi votre Rédempteur, lui qui vous visite aussi certainement par l'esprit du second Adam qu'il vous a créé dans la nature du premier, afin que, comme en l'un vous êtes tombé, en l'autre vous puissiez vous relever et devenir un peuple choisi de Dieu. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le, croyez-le et obéissez-lui, a dit Dieu le Père. Et que dit le Christ, le Fils, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car hors du Christ, nous ne pouvons avoir la paix. Vous devez porter votre croix chaque jour et le suivre, ou vous ne pouvez être ses disciples, ses followers, son peuple, ses amis, ceux en qui il prend plaisir, dont la doctrine est l'enseignement vivant de son esprit dans vos propres cœurs, et dont la religion n'est pas une opinion, mais une expérience, la vie hors de la mort, en un mot la sainteté, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Soyez rigoureux et sincères dans la recherche. Si votre pensée est tournée vers les choses célestes, tout ira bien pour vous à jamais, vivre alors sera Christ et mourir un gain éternel, car heureux est ce peuple dont Dieu est le Seigneur. Le but de ce site web est de montrer comment devenir libre du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.